VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 10 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
Donald et Melania Trump ont été reçus aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le président Barack Obama, qui a activement combattu le candidat républicain pendant la campagne, a promis une transition en douceur.
La victoire des républicains a donné lieu à des manifestations dans plusieurs villes américaines. Et comment la communauté musulmane des États-Unis voit-elle l'élection de Donald Trump? On aura des réactions avec Salwa Jafari.
Nouveaux affrontements entre des étudiants et la police à Kinshasa.
Les fonctionnaires ivoiriens suspendent provisoirement leur grève.
Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre.
Le syndicaliste ivoirien Théodore Zadi.
Et puis l'économie et le sport, mais tout d'abord le journal.
Le vainqueur de la présidentielle du 8 novembre aux États-Unis, Donald Trump, a répondu aujourd'hui à l'invitation du président Barack Obama. Ce dernier a promis de tout faire pour que la transition se passe en douceur d'ici au 20 janvier. La rencontre s'est tenue au bureau ovale de la Maison-Blanche, tandis que la première dame Michelle Obama s'est entretenue séparément avec Melania Trump. Et de son côté, le prochain vice-président, Mike Pence, s'est entretenu avec le président de la Chambre des députés, Paul Ryan. Pendant la rencontre, M. Trump, plutôt après la rencontre, a promis de chercher les avis du président Obama et qu'il a qualifié d'homme de bien. Nicolas Pineau.
Le président Obama qui a déclaré à la presse en sortant, avec le président élu Trump, on a eu une excellente conversation à la fois sur la politique intérieure et étrangère. En fait, il s'agissait surtout d'une mise en bouche, d'une première rencontre. Le président américain, Barack Obama, a annoncé dès l'élection officielle de Donald Trump qu'il voulait faciliter cette transition. C'est pour ça qu'il a appelé à rencontrer Donald Trump ici, ce jeudi, à la Maison-Blanche. Et donc, c'était surtout une première prise de contact. On sait que dans la vie politique américaine, pendant les deux mois qui séparent cette élection de l'investiture du prochain président américain, eh bien, l'administration existante et la prochaine, celle qui prendra le relais sous la présidence de Donald Trump, eh bien, pendant deux mois, les deux équipes vont communiquer pour assurer une meilleure transition. Et c'est surtout de cela dont il s'agit ce jeudi ici à la Maison-Blanche. À noter également la rencontre entre les deux premières dames, Michelle Obama et Melania Trump.
Parmi les réactions à la victoire de Donald Trump, il faut mentionner celle de plusieurs adeptes du groupe État islamique qui ont accueilli avec joie l'accession prochaine du milliardaire républicain à la Maison-Blanche. Mais pas parce qu'ils aiment Donald Trump. Sur Telegram, la messagerie cryptée du groupe, ces extrémistes ont affiché leur enthousiasme. « Réjouissez-vous, il va montrer le visage laid de l'Amérique », selon un utilisateur. Un autre l'a qualifié de « taureau stupide, arrogant et présomptueux, plus bête que Bush ». Daesh n'a pas officiellement réagi à l'élection de M. Trump.
Au plan financier, la bourse new-yorkaise n'a pas chuté suite à la victoire de Trump. Au contraire, le Dow Jones a battu un record depuis hier. En début d'après-midi, l'indice des valeurs industrielles gagnait 98,17 points, soit 0,53%. Il a monté dans les premières minutes à un niveau jamais atteint en cours de séance. Le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,55%.
Sur le continent africain, en République démocratique du Congo, pour le deuxième jour consécutif, étudiants et policiers se sont affrontés à Kinshasa à la suite de manifestations pour dénoncer la hausse des frais universitaires. Eric Manirakiza.
Des étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa ont érigé des barricades et déployé des banderoles. Ceci a perturbé la circulation sur un boulevard reliant les quartiers populaires de l'Est de Kinshasa au centre des affaires de la capitale congolaise. Des policiers qui avaient quadrillé le périmètre ont usé des gaz lacrymogènes pour les disperser et les étudiants ont riposté par des jets de pierre. Les autorités de l'université ont augmenté de 100 dollars américains des frais d'études, une augmentation non justifiée selon les manifestants. Ce regain de tension dans les campus universitaires de Kinshasa intervient dans un climat tendu dans le pays et deux semaines après la reprise officielle des cours dans les universités en RDC.
RDC, toujours, le général Denis Numbi a accusé certains des pays voisins d'être de mauvaise foi dans l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. En février 2013, 11 pays africains, dont le Congo, la Centrafrique, le Burundi et le Rwanda, s'était engagé à ne soutenir aucune rébellion sur le sol congolais.
Wankawa Nyoni, le maire de Beni, s'est également exprimé sur les massacres de civils qui endeuillent depuis plus de 2 ans sa région. Dans un entretien avec l'AFP, il accuse, je le cite, « des mains politiques congolaises derrière les rebelles ougandais des ADF ».
Suite du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame a de nouveau refusé de comparaître aujourd'hui pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes. Après un premier refus le 25 octobre, c'est la deuxième fois que Madame Gbagbo n'accepte pas d'être présente depuis le début du procès, le 31 mai.
En Gambie, le chef de l'État Yahya Jammeh a présenté sa candidature pour un 5e mandat présidentiel. Il a déposé aujourd'hui son dossier de candidature assurant qu'il n'était nullement affecté par les critiques à son encontre. Et puis au Gabon, le patron des services d'immigration a démissionné après une descente de plusieurs de ses agents dans les locaux d'un journal d'opposition à Libreville, où ils avaient interpellé 14 personnes. Nanit Talani, plus de détails.
Selon un communiqué du ministre de l'Intérieur publié aujourd'hui, des violations manifestes des lois et règlements applicables aux procédures judiciaires et aux libertés fondamentales ont entaché ces interpellations. Cette initiative unilatérale de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, a suscité beaucoup d'interrogations dans l'opinion, souligne le communiqué. Tirant les conséquences de cette voie de fait, le patron de la DGDI, Célestin Mbinga, a renoncé à ses fonctions en posant formellement sa démission, ajoute le texte. Le 4 novembre, des agents de la DGD avaient fait une descente dans les locaux du journal d'opposition Les Échos du Nord, particulièrement virulent dans ses prises de position contre le pouvoir. Le journal avait notamment accusé le patron de la DGDI de malversation. 13 personnes, des journalistes et des membres du personnel administratif et technique, ont été arrêtées au siège du journal et la rédactrice en chef adjointe Raissa Oyaseko avait été interpellée le lendemain matin à son domicile. Toutes les personnes ont été relâchées, Madame Oyaseko ayant fait état de mauvais traitements dans les locaux de la DGDI.
Le président sud-africain Jacob Zuma a survécu politiquement aujourd'hui à une nouvelle motion de défiance de l'opposition rejetée par le Parlement. Mais une question est sur toutes les lèvres, peut-il tenir jusqu'à la fin de son mandat en 2019 ? Retour sur une année 2016 difficile pour M. Zuma, entre scandales, défaites électorales et fraudes dans son propre camp.
La fille du président angolais Isabel dos Santos a défendu hier soir devant la presse sa nomination à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Sa nomination est contestée devant la justice par les opposants au chef de l'État, José Eduardo dos Santos.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Irak, l'armée et ses alliés avancent vers Nimrod, une cité antique sur la route de Mossoul, le grand fief des djihadistes du groupe État islamique. Des blindés ont pris un village proche de Nimrod, mais l'armée n'a pas précisé son intention de se rendre sur le site archéologique. Entre-temps, en Syrie, une tempête de sable a interrompu les frappes de la coalition en appui aux forces kurdes avançant sur Raqqa, la capitale du groupe État islamique.
Guerre en Syrie, la Russie a rejeté comme contre-productive la demande de l'ONU d'introduire des trêves plus longues à Alep pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette ville. Une trêve de 10 heures a été mise en place le 4 novembre, après celle qui a duré 3 jours fin octobre. Cependant, l'évacuation des blessés et des civils a échoué, souligne l'AFP. Les passages humanitaires établis par l'armée russe à ses fins étant restés quasiment déserts.
La Libye sera une priorité pour la CPI en 2017, déclaration faite par la procureure Fatou Ben Souda, qui faisait état au Conseil de sécurité de l'ONU, de crimes commis par les djihadistes dans ce pays. L'enquête pourrait inclure les crimes présumés du groupe État islamique, a affirmé Madame Ben Souda. Elle espère délivrer prochainement des mandats d'arrêt pour les exactions perpétrées depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
L'état d'urgence en Turquie suscite des inquiétudes au sein de l'Europe. Le dirigeant du Conseil de l'Europe était ce jeudi à Ankara pour discuter de la situation avec plusieurs dirigeants, dont le président Erdogan lui-même. Thorbjørn Jagland devait aussi s'entretenir avec des représentants de l'opposition.
Nouvelle tragédie en Méditerranée, 1000 francs. Un jeune lutteur gambien très connu s'est noyé alors qu'il espérait rejoindre les côtes italiennes. Selon son entraîneur Pate Nying, le jeune lutteur était parti en Libye en 2014. L'annonce de sa mort intervient une semaine après celle d'une jeune footballeuse gambienne, Fatim Jawara, dans les mêmes circonstances.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
C'est pas...
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, aujourd'hui avec Nani Talani.
L'Égypte, en quête de liquidité pour soutenir une économie chancelante, a obtenu un financement de 2 milliards de dollars, soit 1,8 milliard d'euros d'un consortium de banques internationales, a annoncé ce jeudi la Banque centrale. En parallèle, le ministère égyptien des Finances a indiqué avoir émis hier des obligations souveraines d'une valeur de 4 milliards de dollars cotées à la bourse irlandaise. Une partie de ces obligations a été utilisée pour garantir le prêt de 2 milliards de dollars obtenu par la Banque centrale. EDF, le géant de l'électricité, s'est allié avec une société californienne pour vendre des kits solaires en Côte d'Ivoire où il vise 1,5 million de clients. Pour un kit basique, le client déboursera 5 000 francs CFA pour rembourser l'installation qui lui appartiendra au bout de 3 ans. La région de Soubré à l'ouest sera prioritaire dans un premier temps. Puis les ventes s'étendront à moyen terme à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. La production de coton de la Côte d'Ivoire, troisième producteur africain, a baissé de 31% lors de la campagne 2016, a annoncé hier le gouvernement qui a décidé d'augmenter le prix d'achat du coton de 6% pour inciter les agriculteurs à produire plus. Selon le porte-parole du gouvernement Bruno Kone, cette baisse de production est principalement expliquée par les facteurs climatiques, mais on note aussi une baisse de la superficie cultivée et une baisse du nombre de producteurs qui est passé de 121 305 à 113 532.
Et maintenant, la page sport, ce soir avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Éliminatoire pour le Mondial 2018, ça va être chaud cette nuit dans la zone Amérique du Sud.
Oui, les 6 pays en tête du groupe, unique de qualification pour cette Coupe du Monde, se rencontrent dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est la Colombie 4e du classement qui ouvrira le bal en recevant le Chili 5e avec un point en moins. La Colombie de James Rodriguez face au Chili d'Arturo Vidal. Et puis le match sommet de cette nuit, le 2e de la poule, l'Uruguay contre le 3e, l'Équateur. Edinson Cavani, le buteur vedette, pourrait manquer cette rencontre, mais son compatriote Luis Suarez, lui, devrait être bien présent. En cas de succès, l'Uruguay pourrait s'emparer de la première place puisque l'actuel leader, le Brésil, du sélectionneur Tite, reçoit son grand rival, l'Argentine. Neymar et Lionel Messi ont fait le voyage ensemble dans le jet, mais sur le terrain, ce sera bien évidemment la grande bataille pour cette 11e journée de qualification pour le Mondial 2018.
En Afrique aussi, on joue dès ce vendredi.
Oui, les 20 sélections africaines en piste pour espérer décrocher un billet pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. Ce vendredi, à Alger, la rencontre entre la Libye et la Tunisie. Et puis samedi, à Polokwane, l'Afrique du Sud accueille le Sénégal. À Kampala, le Congo en déplacement contre l'Ouganda. La Zambie qui voyage à Limbé pour affronter le Cameroun. Le Nigeria accueille l'Algérie. Le Burkina à Praia face au Cap-Vert. Mali Gabon à Bamako. Et enfin à Marrakech, le Maroc contre la Côte d'Ivoire.
Enfin la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
San Antonio a concédé une rarissime troisième défaite consécutive à domicile face à Houston, 101-99. Oklahoma City a également chuté à domicile face à Toronto, 112-102, et concédé son premier revers de la saison devant son public. Le grand favori pour le titre, Golden State, a dominé Dallas 116-96 avec 28 points de Kevin Durant. Le quadruple meilleur marqueur de la NBA et MVP de la saison 2013-2014 a dépassé le seuil des 20 points pour la 72e fois de suite. Il rejoint le légendaire Michael Jordan. Seuls Oscar Robertson et Will Chamberlain ont fait mieux.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour et nous partons en Côte d'Ivoire, Gaby.
Oui, les fonctionnaires ivoiriens suspendent provisoirement leur grève aujourd'hui en promettant de la reprendre en décembre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils exigent notamment une revalorisation des pensions des retraités et des veuves. Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien, fait état de menaces dont les syndicalistes auraient fait l'objet. Nanit Talani l'a joint à Abidjan.
Nous sommes en grève depuis le mardi pour 72 heures pour revendiquer 4 points. Le premier point, c'est la question de la réforme de la retraite, c'est le point saillant. Deuxième point, c'est la question des arriérés, des salaires non payés à ce jour depuis 2009. Et puis, un troisième point, c'est l'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique. Troisièmement, la question des libertés syndicales en Côte d'Ivoire.
Le point fondamental, voilà. C'est la retraite.
Tout à fait. Et sur ce point-là, le gouvernement a pris une ordonnance en 2012 dont les effets ont commencé à être perceptibles depuis 2015-2016. Cette réforme prolonge le temps de travail. Désormais, la retraite, c'est à partir de 60 ans pour les grades les plus bas et 65 ans pour les grades les plus élevés. Le gouvernement a augmenté la cotisation des fonctionnaires qui passe de 6 à 8,33%, mais malheureusement a réduit les pensions de retraite de 30 à 50% selon les grades. Du grade le plus bas jusqu'à l'université, les réductions vont jusqu'à 50%. Quand on prend un professeur d'université titulaire qui avait 950 000 francs CFA dans l'ancien système, aujourd'hui il est à 450 000 francs comme pension de retraite. Nous ne trouvons ça inacceptable. Ensuite, les pensions de réversion de la veuve ont été rendues difficiles pour leur perception. Le gouvernement soumet donc les veuves à une condition d'âge, c'est-à-dire que lorsque vous perdez votre époux retraité, la veuve doit avoir l'âge de l'époux retraité, son âge statutaire de départ à la retraite, avant de percevoir cette pension de retraite. Ce qui fait que de nombreuses veuves avec des enfants sous les bras sont aujourd'hui abandonnées à la rue à cause de l'application de cette réforme-là. Ensuite, le capital décès qui était réservé aux fonctionnaires qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite et qui décédaient, qu'on remettait à sa famille, a été supprimé purement et simplement. En plus de cela, le taux d'annuité qui permettait de faire le calcul de la pension a été réduit de 2 à 1,75. Conséquence, les pensions de retraite aujourd'hui sont des pensions mouroirs qui ne sont plus à la hauteur du niveau de vie, du train de vie de la Côte d'Ivoire.
Que comptez-vous faire si vos revendications n'étaient pas satisfaites?
Si nos revendications ne sont pas satisfaites, comme c'est le cas au troisième jour de notre grève, parce qu'au lieu de nous appeler à la discussion, c'est plutôt des menaces que nous recevons de la part du gouvernement, des injonctions que nous recevons de la part du gouvernement, alors que nous sommes ouverts à la discussion. Et la grève prend fin aujourd'hui même, jeudi. Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre. Nous le relançons pour une semaine renouvelable de façon tacite.
Théodore Zadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24. La victoire électorale de Donald Trump domine l'actualité et les réactions se multiplient. Pour le docteur Botian-Marc Essis, politologue internationaliste, chef du département de sciences politiques à l'Institut universitaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, deux aspects sont à considérer. Le commerce avec l'Afrique et l'immixtion dans les affaires intérieures des États du continent.
Les accords entre l'Afrique et les États-Unis, c'est vrai, il y a des études qui ont montré que par rapport à l'AGOA, l'impact n'est pas aussi énorme. L'impact au sens négatif du terme n'est pas énorme. Le préjudice n'est pas énorme pour les États-Unis. Mais il faut s'attendre à tout. Et une telle projection s'appuie sur ce que Trump a prévu de faire dans le cadre de sa plateforme de gouvernance, à savoir la renégociation de tous les accords commerciaux passés entre les États-Unis et leurs partenaires à l'échelle globale. Pour les Africains qui sont épris de souveraineté, épris d'autodétermination, cela pourrait paraître comme une opportunité dans la mesure où ce changement de cap-là aiderait, par exemple, à ne plus s'immiscer dans les affaires intérieures, touchant, par exemple, au changement de régime du fait des interventions américaines. Je pense au cas de la Libye. L'aide au développement est un outil qui aide au positionnement des États épris de prestige à l'échelle internationale. Donc je m'imagine bien que les États-Unis, y compris sous l'administration Trump, s'inscriront dans cette dynamique-là.
Le docteur Marc Essis, politologue internationaliste, chef du département de sciences politiques à l'Institut universitaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président qui avait, pendant sa campagne, proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes aux États-Unis. Les Américains de confession musulmane sont donc inquiets, Salwa Jafari.
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Ils sont très dégoûtés par l'élection. Je ne crois pas que les Américains musulmans et les Arabes américains aient un candidat favori. Ils votent probablement pour Clinton, juste parce qu'ils sont contre Donald Trump, pas parce qu'ils pensent que Hillary Clinton est la meilleure candidate. Je suis républicain, ou j'étais républicain, et je crois que le Parti républicain a vraiment endommagé sa connexion et les liens avec la communauté. Et il devrait travailler dur pour réparer cette fracture.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Merci Salwa Jafari. Nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé en matière de santé prénatale. L'objectif visé par l'OMS, améliorer les chances de survie des futures mères et de leurs nourrissons. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint à Genève le docteur Maurice Boutchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS.
Les praticiens ont constaté que les directives qui étaient jusque-là utilisées étaient quelque part associées avec une mortalité des nouveau-nés un peu plus élevée que prévu. C'est des nouvelles évidences qui sont apparues dans un certain nombre de pays qui mettaient en pratique les directives de l'OMS telles que proposées jusque-là, c'est-à-dire à avoir au moins 4 consultations prénatales pour chaque grossesse sans complication. Et sur cette base-là, il a fallu, n'est-ce pas, revoir la façon de prester ces services.
Alors, quelles sont les principales de la cinquantaine de recommandations publiées par l'OMS ?
Ce qu'il y a de nouveau, c'est essentiellement, d'abord, la philosophie qui est derrière. C'est non seulement pouvoir détecter les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse en vue de pouvoir, n'est-ce pas, réduire les décès, surtout chez les enfants qui étaient observés dans un certain nombre de pays, mais aussi aller pour une expérience positive de la grossesse en mettant un accent particulier sur la qualité des soins. Deuxième chose, on a constaté que plus on a des contacts entre les praticiens et les femmes enceintes, donc pendant la grossesse, plus il y avait des chances, n'est-ce pas, de détecter tout ce qui peut survenir comme complication pendant la grossesse et donc prévenir, n'est-ce pas, les cas graves. Il s'agit d'avoir au moins 8 contacts pendant la grossesse et ceci donc par opposition aux 4 visites qui étaient connues de façon classique. Le troisième point le plus important qui est apparu, c'est que l'utilisation de l'échographie au début de la grossesse permet, n'est-ce pas, aux praticiens de dater l'âge de la grossesse et de pouvoir donc intervenir à tout moment. Parfois, il peut s'agir d'une grossesse multiple, il peut s'agir de malformations qui sont détectées par ces nouvelles technologies. Et ceci donc permet, n'est-ce pas, d'avoir de meilleurs résultats par rapport à la fin de la grossesse, à l'accouchement et à l'état des nouveau-nés.
Le docteur Maurice Bouchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent à l'Organisation mondiale de la santé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Talento de barrio. De que tú me llames, después del huracán viene la calma, eso dicen para no descontrolarme, no puedo comer, no puedo dormir, no logro enfocarme, solo pienso en ti, oh. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido si te vas.
Sur cette note que nous mettons fin à l'édition de ce 10 novembre, dirigée par Lionel Gaïma avec l'assistance technique de Souleymane Tarawale, à la présentation Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Nous avons atteint la barre des 2 millions de likes. Maintenant la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.